La musique.
Caravana maximum.
Je me fous du.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Inoubliable.
Só furda o acal.
Vivo.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Bagnolet, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières, autres formes de création curieuse. Et aujourd'hui, nous recevons Nicolas Chenmaille. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Et alors, peut-être tu peux, avant de commencer, nous dire un mot de ce qu'on vient d'écouter, Aux Enfants Sauvages, de Frédéric Patard, je crois.
Oui, Aux Enfants Sauvages de Frédéric Patard, c'est une pièce que nous avions commandée à Frédéric il y a de ça 3 ans, je pense, à peu près. Voilà, qu'il a écrite pour 8 d'entre nous, donc que des instruments spatifiés. Violon spat, guitare spat, percus spat, sax spat, 2 sax spat, 2 cordes spat et 1 tuba spat. Voilà.
Bon, bah, on va préciser tout ce que tout ça veut dire parce que c'est pas, peut-être pas forcément évident. Mais avant, peut-être on va te présenter. Peux-tu te présenter toi-même d'ailleurs, nous dire par exemple quelle a été ta formation musicale?
Alors, j'ai eu une formation musicale. Traditionnel, c'est-à-dire que j'ai suivi des études classiques de cors. Je suis corniste.
Corniste, on dit, je me demandais. Oui.
Ouais, ça vient de la corne.
Ouais.
Et voilà, j'ai suivi des études au Conservatoire de Nantes, puis à Paris, au Conservatoire du 20e, là, à 2 pas d'ici. Mm-hmm. Quand j'ai eu 19 ans, je suis venu ici. Et puis après. Je suis rentré au Conservatoire supérieur de musique de Lyon. Donc, j'ai passé 4 ans à Lyon. Et puis après, je suis revenu à Paris, mais je suis reparti faire des études à Saintes sur les instruments d'époque. Voilà, où j'ai surtout commencé à jouer du cor naturel, qui est mon instrument. Voilà, la deuxième partie de mon activité professionnelle, je la passe à jouer du cor naturel, qui est un cor sans piston, qui est un cor, c'est juste un tube, hein.
Ouais.
C'est juste un tube, et pour changer les notes, alors on peut allonger le tube, on a des tubes interchangeables, qu'on appelle des tons, puis pour changer encore plus les notes, on va boucher plus ou moins le pavillon. Donc quand on fait une gamme, ça fait pas ouah, 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 un truc comme ça.
Oui.
Voilà.
D'accord, bah donc tu joues encore de la musique. Classique, j'aime pas trop le mot, mais.
Toujours de la musique classique, et ouais. Vraiment de la musique classique surtout. Un peu de musique baroque, mais surtout de la musique classique, c'est-à-dire que ma pratique est surtout centrée entre, allez, on va dire, 1760 et 1805.
D'accord, bah dis donc. Et alors, quel est l'intérêt de jouer sur des instruments d'époque? C'est.
Alors, jouer sur les instruments d'époque, c'est. C'est trouver un son spécifique. Moi, je dois avouer que la musique classique, je l'ai aimé vraiment sur le tard, et notamment quand j'ai découvert les versions sur instruments d'époque, où tout devient plus clair, les mariages entre les instruments sont beaucoup plus clairs, il n'y a pas les vibratos que je trouve les vibratos qu'on trouve dans la musique romantique et qui est appliqué dans toutes les musiques.
Ouais, qui parasite quelque part.
Hein?
Ça parasite un peu.
Oui, ça parasite, et puis c'est un espèce de cache-misère souvent, parce que les gens jouent pas forcément très juste. Du coup, quand tu fais un vibrato, tournes autour de la note gentiment, et puis. Non, j'exagère. Mais ça amplifie le son aussi. Le vibrato amplifie le son. Donc, à partir du 19e siècle, comme il a fallu remplir des salles de plus en plus grandes, le vibrato en chant, c'est pareil hein, d'ailleurs, a permis de jouer et de chanter de plus en plus fort. Voilà, donc moi revenir à des fondamentaux de son sans vibrato, moins fort, avec des sons moins soutenus aussi, c'est-à-dire qui... Enfin voilà, il y avait toute une logique, aussi moins de compétition dans le monde du baroque, il y a aussi moins l'idée de compétition.
C'est vrai.
Voilà.
Ah bah dis donc, ça me fait penser à une question que j'ai posée à Noémie Boutin là qu'on a reçue récemment. Ouais. Est-ce que le fait que tu fasses le spat sonore, que tu fasses totalement autre chose que de la musique de répertoire, est-ce que ça te discrédite pas dans ce monde de la musique classique justement, qui sont peut-être pas le monde le plus ouvert?
Alors justement, chez les baroqueux, c'est pas les plus fermés. Hein.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est assez rigolo parce que j'ai très, 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 très peu de collègues qui sont venus écouter ce pas de sonore. Ah oui. C'est-à-dire, ils se comptent même pas sur les doigts de la main, je pense. Par contre, ils sont curieux. Ils me demandent souvent ce que vient le spat. Ça les intéresse beaucoup. Je pense qu'ils voient sur Facebook les photos, tout ça. Ouais. Mais bon, de là à venir voir, écouter les concerts, c'est encore une autre étape.
Ah,
après, bon.
Bon,
je leur jette pas la pierre parce que c'est vrai que quand on est musicien et qu'on passe nos vies à faire des concerts, on n'a pas tellement envie d'aller en écouter d'autres. Mais voilà, en tout cas, s'ils m'entendent, mes chers collègues, je leur dis venez écouter du spat.
Ah oui, bah oui, bah oui. Et alors, comment t'es. Parce qu'avant la création du spat sonore, je crois que t'as l'idée déjà de spatialiser le son de ton corps.
Alors, c'était apparu. Bon, je m'ennuyais quand même assez ferme au CNSM de Lyon. J'étais pas le plus doué. Enfin bon, pas mal de choses qui faisaient que j'ai eu des débuts assez difficiles là-bas. Et j'ai eu la chance de croiser le chemin de Jacques Di Donato, qui était professeur de clarinette.
Ah bah oui.
Et donc qui animait un collectif d'improvisation au sein du conservatoire. En plus de donner des cours de karaté d'ailleurs, enfin c'est quelqu'un qui est super. Voilà, donc on avait ce collectif d'improvisation et puis il invitait régulièrement des improvisateurs, et notamment Vinko Globokar était venu en séminaire. Et c'est à cette occasion-là qu'il a proposé aux étudiants d'inventer leur propre instrumentarium, enfin de venir, parce qu'on faisait un séminaire de 3 jours et puis on faisait un concert au bout.
Ouais.
Et voilà. Et du coup, moi, ça faisait quelques temps que j'enlevais déjà les coulisses de mon corps. Enfin, voilà, là, j'ai branché des tuyaux dans ces coulisses. Et puis j'ai mis des tuyaux en plastique, puis j'ai mis des petits entonnoirs au bout. Et du coup, je me suis retrouvé avec plusieurs sorties de son qui étaient éloignées de moi.
Oui.
Alors, c'est rien de très nouveau, hein. Y a des gens qui avaient fait ça avant moi. Mes aînés avaient déjà exploré ce genre de choses. Mais... le truc c'est que ça fait 20 ans que je tourne autour de cette idée-là et que je développe ce principe-là. Voilà.
Eh ben, est-ce que tu nous proposes d'écouter Beethoven?
Oui, Beethoven, donc on a enregistré ce quintet avec piano, avec Maud Graton au piano, Julien Debord au basson. Nicolas Baud à la clarinette et Marcel Poncel au hautbois. On avait enregistré ça il y a quelques années. Voilà, c'est pour aussi faire entendre ces instruments, donc des instruments d'époque, de l'époque de Beethoven. Et puis dedans, il y a un solo de corps, voilà, comme ça. Enfin, c'est pas souvent finalement qu'il y a des solos de corps. La plupart du temps, quand même, je plante des clous, je joue des longues notes et des ta-ta-ta-ta. Donc là, il y a un solo de corps.
Voilà. Comme ça, on aura un aperçu de ton instrument. Et puis après, on parlera du spat sonore.
Ouais.
Thank you.
Vous êtes bien à l'écoute des Oreilles Libres sur Radio Libertaire et nous recevons Nicolas Chenmail. Et alors, Nicolas, tiens, je voulais te demander, est-ce que tu des gens de la musique classique, comme on dit, se sont intéressés au spat sonore ? Est-ce que tu as des choses à nous raconter là-dessus ?
Alors, des gens de la musique classique, bon, ça les fait gentiment rigoler, ça les intéresse. Mais bon, j'en ai croisé, par exemple, Laurence Equilbet, j'ai un souvenir... où je jouais un solo que m'avait écrit Gérard Pesson, le compositeur. Oui. Et il avait écrit également pour le chœur Accentus, et on devait partager la programmation d'une soirée au Bouffe du Nord. Et du coup, j'avais partagé la loge avec Laurence Equilbet. Et quand elle était rentrée dans la loge, en fait, j'avais le spat qui était monté, qui allait être... Et du coup, il y avait des pavillons partout, enfin, un espèce de fatras de tuyaux. Et je me souviens de sa tête assez outrée à penser qu'elle s'était sans doute trompée d'endroit et que sa loge était sans doute à côté. Mais non, c'était bien sa loge. les gens de la musique classique, ils sont dans la musique classique.
Bon, bah.
Alors si, quand même... dans les jeunes, par exemple Maud Graton, qui jouait le piano là, à l'instant, on a un programme spat orgue qu'on joue dans des églises. Du coup, la prochaine fois, on jouera en mai dans la cathédrale de Quimper, où elle joue les grandes orgues de l'église, et nous on est en bas, et le public est au milieu du spat en bas. Oui. Et du coup, on fait des allers-retours. Et là, il y a des pièces qui vont être écrites par Karl Nejlen, toujours Frédéric Patard et Elsa Biston pour ce dispositif.
Ah, super!
Voilà.
Super, bon. On va y revenir, mais peut-être avant tout, il faudrait que tu nous expliques ce qu'est le spat sonore aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas.
On n'a pas explicité, en fait.
Alors, spat sonore, c'est un collectif de musiciens. On est entre 5 et... On joue entre 5 et 9, 10, qui jouons des spats. Alors, les spats, c'est des instruments que j'ai commencé à inventer et à construire en 2001, donc ça fera 20 ans l'année prochaine. Et ce sont des instruments, des spatialisateurs acoustiques des bruits produits par la bouche, on va dire. Alors ça, c'est la définition un petit peu ancienne, puisque maintenant, il y a aussi des spats de guitare, des spats de violon, donc c'est plus seulement des soufflants. L'idée du spat, c'est que c'est des pistons de cuivre ne servent pas ici pour allonger le tuyau comme dans les cuivres pour changer la longueur du tuyau, donc pour changer de note, mais en fait va permettre de dériver l'air et le son dans des pavillons qui sont à distance du musicien. Ce qui fait que sur mon spat à moi, par exemple, j'ai un pavillon à 2 mètres à ma droite, un pavillon à 2 mètres à ma gauche, un pavillon qui part à 2 mètres devant, et par exemple, quand on est 8, on va avoir chacun un instrument comme ça, donc ça va former une arène de tuyaux de cuivre avec une trentaine de pavillons, et le public va venir s'installer au milieu. Et nous allons jouer donc une musique spatialisée, donc spat vient de spatialiser.
Le public est forcément au milieu, il n'y a pas de rapport frontal.
Non, on n'est pas sur du rapport frontal, le public est forcément au milieu, ça exige une jauge assez resserrée, c'est-à-dire qu'on a toujours un petit peu des problèmes, c'est-à-dire que on est atypique pour les lieux de programmation, parce qu'on... par exemple, quand on est 5, on n'accueille pas plus de 50 personnes, 40-50 personnes au milieu. Quand on est 8, on a joué au maximum pour 150-200 personnes, mais c'était vraiment... c'est presque pas le plus confortable, en fait. Ouais. C'est vraiment de la musique intimiste, immersive, où on rentre dedans et... Donc ce sera... Voilà, on jouera jamais pour 3000 personnes.
Et il y a deux analogies qui sont faites, j'ai vu ça sur le site des spats sonores, que je recommande aux éditeurs d'aller voir, parce qu'il y a aussi des images, parce que ça peut paraître abstrait comme tu expliques là. Et des analogies qui sont faites d'une part avec la musique acousmatique, pour cette histoire de diffusion j'imagine, et également avec l'orgue. Est-ce que tu peux préciser ces deux aspects là?
Alors la musique acousmatique, effectivement, il y a cette histoire de diffusion où un piston, c'est un peu comme un potard qui permet de passer d'un haut-parleur à l'autre. Mmh. D'ailleurs, c'est comme un potard parce que c'est pas seulement on-off un piston. On peut l'enfoncer qu'à moitié, qu'à un quart. Donc, en fait, faire vraiment passer le son du pavillon de droite au pavillon de gauche en passant par le milieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le son est aussi fort à droite qu'à gauche. Du coup, on peut vraiment faire des balayages. Ça, c'est pour la partie diffusion, spatialisation. Et puis, sur les instruments, en tout cas les instruments, les cors, les tubas, les instruments avant, on a des systèmes de boucles d'effets analogiques, c'est-à-dire que des pistons permettent de faire passer le son dans des filtres analogiques, c'est-à-dire de l'eau, des anges, de cornemuse, d'harmonica, des hapeaux à sanglier, etc. Des choses qui vont filtrer le son. Donc on n'a pas seulement des sons de cuivre, par exemple. On a un son de cuivre qui va être mixé avec une ange d'harmonica et puis avec de l'eau dedans. Et on va diffuser tout ça. Donc c'est vraiment l'idée, c'est un peu une blague, hein, mais c'est de reconstituer ce qu'on peut faire avec un ordinateur, où on a un son de départ qu'on va filtrer puis qu'on va diffuser après.
Effet analogique, ça veut dire que vous interdisez les effets électroniques, enfin les pédales d'effet, tout ça?
Alors de moins en moins, il y a eu quelques transgressions, notamment de notre percussionniste Roméo Montero, qui a ramené pas mal d'électricité dans tout ça.
Oui, c'est pas un dogme, quoi.
Non, c'était... au départ, si, un peu. Mais en fait, il a proposé, c'était une excellente idée, de mettre un haut-parleur dans une coque en fibre de verre. On a fabriqué on a mis des haut-parleurs dans des coques en fibre de verre. Et le son du haut-parleur est renvoyé dans les pistons qui diffuse et qui diffuse dans les pavillons. Oui. Du coup, on a une unité de visuel, parce que le son du haut-parleur va sortir quand même par les pavillons. Et puis, en plus, le fait que ça passe par les tuyaux, ça amène ça crée un effet acoustique qui fait que ça se mixe. Enfin, qu'on n'a pas l'impression qu'il y a des sons acoustiques d'un côté et des sons électriques ou électroniques de l'autre. Voilà. Et pour... tu me demandais pourquoi l'orgue.
Oui, l'orgue.
Orgue à bouche, c'est-à-dire que ces effets analogiques, c'est aussi, ça pourrait être des jeux d'orgue.
Oui.
Voilà, où on fait passer le son, l'air dans différentes anches, etc.
Oui. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, sur un orgue, on peut changer le son avec ces systèmes de...
De dérivation, en fait. Ouais. C'est toujours des sortes de dérivation.
Et alors, pour tout ça, est-ce que vous êtes, ou tu t'es adjoint, les services d'un facteur d'instrument pour construire le dispositif, ou est-ce que c'est toi-même qui, ou vous-même qui...
Alors, on a des copains pas facteurs d'instruments, qui sont réparateurs d'instruments de cuivre. Mmh. Thomas Baudelin et Mathieu Engelhardt, qui ont un lieu qui s'appelle L'Atelier à Nantes, qui est un lieu de réparation d'instruments. Grâce à Mathieu, on a récupéré beaucoup de pavillons de corps. Et puis il nous a appris à souder, à trouver le matériel, bon là je parle il y a 10-15 ans, hein, le matériel qui nous a permis de faire la plupart des instruments. Les instruments, la plupart sont, enfin pour les cuivres en tout cas, sont entièrement en cuivre, c'est-à-dire qu'on retrouve, on peut avoir les caractéristiques totales d'un cor ou d'un tuba.
Ouais.
C'est de la facture, bon, qui n'est pas... on n'a pas fait de la facture non plus encore de qualité professionnelle, ça veut rien dire, mais c'est de la bonne facture, mais bon, c'est pas des corps, on peut pas les comparer encore aux corps qui sont faits d'une seule pièce. Mais voilà, du coup, Mathieu et Thomas, et puis Thomas était spatiste, lui il est saxophoniste, donc il a été aussi spatiste pendant quelques années. Voilà, donc ils nous ont mis au parfum au début pour qu'on puisse se lancer, mais après on a fait quand même la plupart des choses tout seul, donc notamment avec mon acolyte Philippe Bord, qui est l'autre corniste du groupe, qui est lui là depuis le début. Enfin, au début on était trois dans le groupe, et du coup avec Philippe et à l'époque Olivier Germain-Noureux qui était le tubiste, on a construit la plupart des instruments.
D'accord, c'est vous.
Bon, après on a continué à en construire. Là je suis en train de finir de construire le premier spat trompette, parce qu'on va faire un programme avec Gilles Poisa, le programme qui s'appelle Les Madeleines dans la galaxie 3.
D'accord. Bah, on va y revenir sur les Madeleines, sur les Madeleines. Et je voulais savoir, tu as parlé de ton spat en disant que il y avait un pavillon à 2 mètres, 1,50 m devant toi. Est-ce à dire que vos instruments ne changent pas, ne sont pas modifiables? C'est défini une fois pour toutes?
Si, ils changent. Ouais. Alors, ils changent de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a eu des étapes de prototypes pendant des années et des années. Hein.
Ouais.
Mais ils sont faits pour changer. C'est-à-dire que toutes ces boucles d'eau, enfin, etc., dont je te parlais, d'anches,
ouais,
ça, l'idée, c'est qu'on les change selon le répertoire.
Ah.
Moi, par exemple, sur mon instrument, j'ai 20 pistons. Bon, c'est énormément, mais il n'empêche qu'il y a un nombre limité d'effets avec ces 20 pistons. Et que pour passer d'une pièce à l'autre, je vais être obligé de débrancher certains effets et d'en brancher d'autres.
Ah oui, voilà. D'accord. Ouais. Et alors, est-ce que tu dis ça change selon le répertoire, mais est-ce que ça change également le dispositif? Est-il adapté au lieu dans lequel vous jouez?
Oui, on a une dimension. C'est adapté au lieu dans le sens où il y a l'histoire de jauge dont je te parlais. Mais les instruments ne changent pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a le nombre d'instrumentistes qui va changer. C'est adapté au lieu parce qu'on les suspend. Donc, ce qui va changer, c'est la longueur des drisses qui vont. Et puis toute l'installation. C'est-à-dire que quand on va être dans une cathédrale, on ne va pas avoir les mêmes contraintes que dans un théâtre où on a un gris qui descend, etc. Ou dans un musée où on ne peut absolument rien suspendre. C'était arrivé au musée des Beaux-Arts de Rennes où on avait dû tout mettre sur des pieds de micro. C'était très moche, mais bon, on avait réussi à le faire. Oui, donc c'est adapté au lieu, mais pas tant que ça, finalement. Le rapport à bon, on crée une acoustique dans le lieu. Créer un lieu dans le lieu, quoi, d'une certaine manière.
Et ça se fait empiriquement, ou vous travaillez sur des plans, je ne sais quoi, des analyses?
Ils nous demandent des plans, alors j'en fais.
Ah oui.
Moi, je préfère l'empirique.
Ah, c'est vous qui faites un plan, vous ne demandez pas, parce que tu pourrais aussi...
Oui, si, ils m'envoient un plan, et ouais, je dessine les endroits où, plus c'est des scènes nationales, tout ça, plus il faut un maximum de, de données. Enfin, où là, la cathédrale de Quimper, par exemple, c'est à s'arracher les cheveux, parce que t'as le... T'as les monuments historiques, les curés, tout le monde s'y met, et du coup, faut baliser le truc au maximum.
Oui, d'accord.
Voilà. Bon, mais. Moi, j'aime bien l'empirique, hein. J'ai toujours fait les choses de manière empirique. Il y a beaucoup d'endroits, là, c'est marrant, je travaille avec des plasticiens. Où il me demandait, enfin pour un autre projet dont on parlera peut-être tout à l'heure, il me demandait un plan précis de ce que je voulais, enfin une tyrolienne sonore là que j'ai installée au parc de la Villette. Le problème, c'est plan précis sur un truc comme ça qui n'existe pas, où on ne sait pas comment vont réagir les instruments en fonction de la. En fait, on peut pas imaginer en amont exactement comment ça va se passer. Il faut faire des prototypes, il faut faire des essais.
Ouais. Et alors, j'imagine qu'il y a un temps d'installation important. Est-ce qu'il y a une logistique conséquente ou ça reste léger? Est-ce que ce sont, par exemple, les musiciens qui installent eux-mêmes leur spat?
Ouais, c'est les musiciens qui installent eux-mêmes leur spat. Quelquefois on en a marre. Ça prend entre 2 et 4 heures, hein, parfois 6.
Enfin, oui.
Et on se paye pas là-dessus. Bon. Quelquefois on en a marre, et en même temps, je crois que ça crée vachement de cohésion de groupe. C'est-à-dire que on s'entraide les uns les autres pour installer les instruments. Il y a des instruments qui sont plus compliqués à mettre en place que d'autres. Et puis il y a une logistique de transport. On a toujours essayé de faire au plus compact et transportable possible pour pas avoir des camions, etc. Donc on a même pris EasyJet sans supplément de bagages à emmener tout le spat, puisqu'on est allé, on s'est pas mal promené ces dernières années là. Mais Oui, donc c'est une logistique, par exemple, quand on prend EasyJet et qu'on sait que si on paye, on a 20 kilos en plus dans la valise, donc quelquefois on répartit à l'aéroport les trucs, et puis on passe en bagage à main certaines pièces, mais alors là, ça tombe au radar, au rayonnement, tu sais, au contrôle, et là, ils tirent des tronches de 4 kilomètres, ils nous demandent d'ouvrir les bagages, ils comprennent pas ce que c'est, évidemment. Bon, ça se prête à de bons moments de... On a un certain nombre d'anecdotes assez rigolotes.
J'imagine. Je propose qu'on écoute un peu de musique. Alors, ce morceau, si j'ai bien compris, a un titre fallacieux. Madalane, ça veut rien dire, en fait. C'est les Madeleines.
C'est les Madeleines à l'amour. L'amour, c'était un squat à Bagnolet, il y a quelques années.
Ah, d'accord.
Et c'est les Madeleines dans la galaxie à l'amour.
D'accord, je propose qu'on écoute ça.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au spat sonore avec Nicolas Chenmail. Alors, Nicolas, peux-tu nous dire qui sont actuellement les spatistes ?
Alors, les spatistes... Donc, il faudrait les donner dans l'ordre alphabétique, c'est vachement compliqué ça. On peut essayer. Amaryllis Billet, qui est violoniste, super violoniste, qui a autant une. Je vais faire un CV de chacun, ouais, allez. Hein. qui a autant une activité en classique, où elle joue avec l'Orchestre des Siècles, et puis avec et puis en impro, où elle a un projet avec Denis Charol, et puis elle a plein de projets dans tous les sens. Ça fait énormément de choses à Amaryllis. Super violoniste. Philippe Bord, donc mon alter ego, mon acolyte de SPAD depuis toutes ces années, avec qui joue aussi du corps naturel, enfin voilà, on joue ensemble dans les orchestres, qui est aussi guitariste manouche, qui joue dans un groupe qui s'appelle les Kaila, voilà, plein de choses, Philippe, qui sait qu'il y a d'autres, attends, je vais pas en oublier, je vais compter sur mes doigts, qui sait. Maxime Morel, parce que j'essaye de faire l'ordre alphabétique en même temps. Maxime Morel, tubiste, pareil, autant une activité en classique, enfin plus musique classique mais moderne, il joue au balcon, et puis improvisateur, qui a créé pas mal de pièces de Jacques Robotier, et puis aussi de Vinko Globokar, voilà. Maxime Morel, Roméo Montero, qui est compositeur, percussionniste, compositeur, plein de un univers très riche. Il a écrit pour le SPAT plusieurs fois. Il adore jouer avec des cochons en plastique qui font ouin, ou des canards, qu'il branche sur le SPAT et ça fait un gros cochon rose et on s'attend à un truc dégueulasse, mais en fait ça sonne bien. Joris Rull, clarinettiste. Ah, j'ai oublié, J.K.L. M.N. Nicolas Najotte, saxophoniste. Saxophoniste qui joue aussi pas mal en musique traditionnelle, qui a plusieurs groupes de musique traditionnelle. Voilà, qui était un élève de Jacques Di Donato, d'ailleurs. Tout comme Joris Rull. Joris Rull, qui est l'autre saxophoniste, enfin, même plus ancien, ça fait bien 8 ans, ou une dizaine d'années qu'on joue avec Joris. Joris, professeur au Conservatoire de Montreuil, mais aussi compositeur, actif membre du collectif Umlaut, comme Amaryllis Billet d'ailleurs, qui était au début. Voilà, pas tellement de musique classique pour Joris, plutôt de la musique moderne, grand improvisateur, devant l'éternel, voilà. Christelle Seri, guitariste, ensemble Cairn, qui a pas mal de projets dans tous les sens. Voilà, Christelle Seri. Et puis nous avons plusieurs musiciens invités qui nous rejoignent ponctuellement ou régulièrement. Souvent des chanteurs d'ailleurs. Donc il y a Elsa Birger, chanteuse du groupe Odeya et de Ceuta Celta, voilà, qui chante des chansons autant traditionnelles, grecques, siciliennes, et du coup qui nous a rejoint pour un programme avec Spat Sonore. Et Jean-Michel Pupin, qu'on a entendu juste avant dans Les Madeleines à l'amour, qui était Jean-Michel Pupin, ancien chanteur du groupe G.I. Love, qui était un groupe de hardcore des années 80, voilà, qui a fait ce programme de Madeleine dans la galaxie avec nous. Pourquoi les Madeleines dans la galaxie? Je fais un petit, oui, une petite dérivation. Madeleine dans la galaxie, c'est les Madeleines de Proust, dans la galaxie. En fait, c'est une galaxie de sons, et puis tout à coup, hop, il y a une chanson. Du coup, ça remet le public un peu dans dans un univers un peu plus connu. Et puis donc là, on va commencer une collaboration pour les Madeleines 3 avec Gilles Poisat, trompettiste, ancien trompettiste de Mazalda, et qui a aussi un projet de chanson. Donc on l'invite autant comme trompettiste que chanteur pour ce projet. Je dirai les dates tout à l'heure, hein, du concert. Et on va faire aussi un projet là avec Denis Charolle. Voilà, c'est les projets qui viennent.
On va y revenir.
Okay, ouais, on y reviendra.
On va y revenir. J'ai des questions sur encore les instruments.
Ouais.
Et notamment, tu l'as dit à Christelle Seri, qu'on a reçu et qui nous avait parlé du spat sonore. Ouais. Il y a des instruments à cordes. Tu as parlé de Montero, de la percussion, qui se sont joints au cuivre. Alors, pour quelle raison? Puisque au début, c'était des cuivres. Pour quelle raison ces cordes et ces percussions? Et aussi, surtout, d'ailleurs, ces instruments bénéficient-ils d'un même traitement spatialisé?
Alors, il bénéficie d'un même traitement spatialisé. Alors, attends, je vais commencer par la dernière question, et puis je reviendrai à la question d'avant. Il bénéficie d'un même traitement spatialisé parce que le SPAT, c'est une espèce de méta-instrument. Ouais. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'instruments, mais ça peut former aussi un tout. Et c'est vraiment l'idée de ce pad sonore, c'est-à-dire qu'on va travailler, avoir des matières communes d'un instrument à un autre, par exemple cuivre et guitare, etc., et qui vont nous permettre de faire circuler les sons sans savoir d'où ils viennent. C'est l'idée d'un orchestre. Où les sons se mélangent. Voilà, il y a le spat sonore, c'est vraiment un projet collectif au sens le plus collectif du terme, puisque l'individu va parfois être obligé de se dissoudre et de s'effacer face au collectif. Donc c'est quelque chose d'assez totalitaire. l'orchestre, hein, de toute façon, ça a été créé par Lully pour qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse. Hein, donc c'était. On a tous quand même ça dans notre ADN, parce qu'on sort tous du conservatoire et on a tous appris à jouer dans des orchestres, donc à effacer nos individualités. Donc on interroge ça, ce rapport collectif-individu, c'est quelque chose qui est assez important.
Ouais.
Et puis pour que l'espace fonctionne vraiment, il faut que les sons puissent être les mêmes,
ouais,
identiques.
Mais alors moi, ce que je voulais savoir, c'est techniquement, est-ce qu'il y a des cornes, des pavillons qui vont sortir de l'ampli guitare, par exemple, ou...
Voilà, exactement.
Ouais, c'est ça.
Je l'ai pas dit encore à l'antenne, mais je te l'ai dit hors
peut-être. Alors,
ah, oui. Donc en fait, il y a le son. Des guitares, c'est guitare électrique, hein, violon électrique, percussion, oui. Enfin c'est électrique. C'est le son va être envoyé dans un haut-parleur qui est coincé dans une coque en fibre de verre.
Oui, effectivement, tu l'as. T'en as
parlé.
Je l'ai
dit, hein, déjà.
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Donc ça permet de redispatcher les sons. Et puis d'avoir des sons qui sont assez similaires d'un pavillon à un autre.
Ouais.
Et en même temps, le fait d'avoir, à un moment donné, de demander à des cordes de se joindre au cuivre, ça c'était ta première question,
ouais.
C'est aussi pour enrichir le vocabulaire sonore que nous avions. C'est-à-dire que ça a été quand même une grosse histoire du spat sonore, ça a été d'enrichir le son, parce qu'au départ, bon, quand je branchais des tuyaux sur mon corps, ça faisait... Ça pouvait durer longtemps. Donc petit à petit, en rajoutant des boucles d'effets analogiques, en mettant des sourdines dans les pavillons, tout ça, ça a permis un enrichissement des timbres. Et puis après, d'inviter d'autres instrumentistes.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Alors, le dispositif influence-t-il ou contraint-il plus précisément les instrumentistes ? Tu disais tout à l'heure que tu as une vingtaine de pistons. Alors, j'imagine que le fait de manipuler les pistons en plus de jouer de ton instrument, ça, il y a une certaine contrainte. Et, question annexe, le spat sonore, exige-t-il un apprentissage?
Donc oui, je vais me faire greffer des bras supplémentaires. Oui. Ça, c'est la spade 2.0 en mode transhumaniste. Ou alors avec la trachéotomie, se brancher directement dans la gorge, oui. C'est pas mal. Oui, donc on est obligé d'apprendre les choses. C'est souvent un gros casse-tête. Mais on va limiter, c'est-à-dire qu'on va utiliser... On va demander aux compositeurs de ne pas changer. Ce qui est compliqué, c'est quand ils écrivent des changements de timbre avec des positions de main très différentes, avec une note, un fa dièse, avec la boucle d'accord d'harmonica, plus la boucle do, et puis de passer dans le pavillon de gauche, puis de passer sur le pavillon de droite avec un la et un truc. C'est vrai qu'on se retrouve avec des... Mais bon, du coup, on bosse nos partoches quand on en a des compliqués, et puis quelquefois, on n'y arrive pas. Mais oui, ça demande un apprentissage. Ça demande un apprentissage. Je ne sais pas quand ils m'ouvriront le poste de professeur de SPAT au Conservatoire de Paris.
Compte pas trop dessus pour nourrir ta famille. Je vais savoir à quel répertoire vous avez débuté. Est-ce que vous avez débuté par de l'impro, des créations collectives? Comment ça...
On a débuté surtout par de l'impro. Ouais. Et il y a eu assez vite, finalement, en 2005, les premières pièces écrites.
Ouais. Et vous pratiquez encore l'improvisation?
On joue, oui, on est toujours en train d'improviser.
Oui.
Bah dans les Madeleines dans la galaxie, par exemple, c'est on a ses chansons, et puis entre les chansons, on se donne éventuellement quelques lignes d'impro, mais on n'est que dans l'impro.
Oui, oui.
Et ah oui, ouais. Les chansons vont d'ailleurs permettre d'orienter les improvisations.
Ouais. On va y venir, mais alors il y a un truc là que je t'ai laissé dire et j'ai pas percuté, c'est sur le mode de fonctionnement. Tu parlais du fait que l'orchestre c'est la négation de l'individu. Je sais pas, t'as dit ça mieux que ça, mais je veux savoir comment s'effectuent les prises de décision. Est-ce qu'il y a un directeur artistique ou est-ce que c'est une prise de décision collectiviste? Pourquoi pas?
Bon, on a beaucoup interrogé ces choses-là depuis le temps.
Il me semble, oui.
C'est-à-dire qu'on avait commencé vraiment comme quelque chose d'assez... d'assez libre et de... On était trois à prendre des décisions totalement à égalité. Sauf qu'à un moment donné, c'est moi qui... Je tenais le plus d'énergie pour organiser les choses. Et j'avais été l'initiateur du projet. Donc, à un moment donné, j'ai demandé de prendre la responsabilité de direction. Ça en a froissé un de nous trois qui est parti. Puisqu'il était minoritaire, puisque l'autre de nous trois était pour cette chose-là. Et depuis, c'est vrai que je porte les choses... ça me prend en fait un temps fou, hein, en bénévolat. Je suis un mi-temps là-dessus toute l'année, depuis des années. Et j'ai essayé plusieurs fois de... En fait, bon... On essaye d'être sur quelque chose de le plus horizontal possible, évidemment. Les décisions, j'en prends, mais je ne les prends pas toutes. Il y a des programmes qui sont plus portés par les uns et les autres, puisqu'il y a on a des compositeurs aussi dans le groupe qui écrivent les pièces et qui vont diriger le travail sur les pièces. Il y a des parties techniques, par exemple, comme je disais, Roméo, sur ces histoires d'amplificateurs, lui dirige complètement cette partie-là. Enfin, on a certaines... Après, à un moment donné, notamment la dernière fois, j'ai essayé d'orienter une décision plus collégiale pour l'artistique. Je voulais me libérer aussi un petit peu de la direction artistique, au sens quel projet on fait, etc., quel choix. Et je me suis un peu heurté, notamment aux besoins des institutions qui nous subventionnent, notamment de la DRAC, au fait que ce soit collégial, c'est-à-dire que ils avaient besoin d'un directeur artistique.
Eh oui,
Et j'ai même, en fait, la dernière commission, je ne sais pas si je peux te raconter tout ça à la radio, mais la dernière commission, il devait y avoir Christelle qui devait y aller avec, avec Maxime Morel et notre administratrice Mathilde Tison à ma place, parce que moi, je n'étais pas disponible. Et en fait, on nous a conseillé de que personne n'y aille et que ce soit notre représentante, conseillère musique qui nous représente.
La collégialité, c'est pas forcément bien vu.
Non. Mais ça reste.
Enfin, la collégialité, l'autonomie. Enfin bon, bref. Parlons un petit peu du chant. Vous êtes intéressé au chant sur plusieurs créations, les Madeleines notamment, donc que tu as évoqué un petit peu. J'aimerais savoir s'il y a un aspect tactique dans le fait d'inclure des chansons. Est-ce que c'est pour rendre la musique du SPAT plus accessible à un public non initié? Je voudrais savoir si c'est important, ça, pour toi.
Ouais, c'est important. C'est important. Je suis assez heureux que le SPAT soit, en fait, pour pas mal de gens, soit considéré comme une porte d'entrée vers les musiques expérimentales. Une des portes d'entrée les plus accessibles. Par son côté spectaculaire, ludique, d'être au milieu de l'installation. Donc c'est vrai que mettre des chansons là-dedans, c'est dans la même idée, une démarche pédagogique. Et c'est vrai que là, on a fait une grosse tournée, le festival Big Bang, le festival jeune public européen. Et c'est quand même super plaisant de balancer à des gamins de la musique quand même très... de l'improvisation très expérimentale, très compliquée, et qui sortent complètement keblo, parce qu'en fait, on les a pas perdus, quoi. Et à un moment donné, ils se sont pris une chanson super dans la figure, et puis après, ils partent dans le souffle qui tourne. Enfin, ouais, c'est assez important. Et c'est tactique. C'est tactique. Mais bon, ça nous fait pas gagner plus de sous.
Non, mais c'est bien. Bah, tu sais, c'est quand même l'intérêt de, par exemple, d'une émission comme la nôtre, c'est peut-être d'intéresser des gens, des auditeurs anarchistes de la radio, à ces musiques-là. À partir du moment où nous, on aime bien, on trouve ça intéressant, on peut estimer qu'on n'est pas les seuls. On n'a pas eu la grâce, je ne sais quoi, pour apprécier ça. C'est que c'est accessible à tout le monde. Je propose d'écouter une chanson super. Donc avec Elsa Birger au chant, c'est Omaharagias. C'est grec, je crois.
Ouais, c'est une chanson grecque. C'est l'arrivée du Maharaja avec son harem de femmes nues qui dansent.
Ah bon, c'est sur un peu libertaire, ça craint. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, et aujourd'hui on est avec Nicolas Chedmaille pour parler du spat sonore. Alors, le spat sonore inspire des compositeurs. On en a parlé déjà. Comment se traduisent les intentions des compositeurs qui composent pour le spat avec cette idée de spatialisation? Comment transmettent-ils leurs idées? Encore une fois, est-ce empirique ou y a-t-il des notations, des... Comment ça se passe?
C'est une notation empirique, effectivement, parce qu'ils vont être obligés d'inventer tout un langage pour ces instruments. En général, on prend un temps de travail avec eux en amont, avant l'écriture. Donc un temps de travail collectif où ils vont pouvoir essayer des choses, et puis un temps individuel où ils vont écouter chaque possibilité de chaque instrument. Et puis après, ils écrivent leur pièce, et on a un second temps de travail où on va répéter la pièce. C'est souvent assez compliqué, assez long, parce qu'on est quand même... une des complexités du spat, c'est que... Nous, on est en dehors du cercle, on est les moins bien placés pour l'écouter, le spot. Est moins bien placés que le public. Moi, je rêve un jour d'être public de cet instrument, parce que je n'ai aucune idée de ce que ça rend. Ouais, du coup, c'est pas évident parce qu'on s'entend pas très bien. Nos propres pavillons sont loin de nous, pas dans notre direction. Et les gens avec qui on joue sont parfois à 10 mètres, 15 mètres. Oui. Tu me diras comme un orchestre, mais bon, c'est. Voilà, on a une écoute assez particulière. Ça développe d'ailleurs, je pense, des facultés d'écoute particulières, d'attention et de. Mais voilà, en tout cas, les compositeurs, les pièces, c'est toujours extrêmement intéressant pour nous parce que ça nous amène à découvrir aussi des choses qu'on. Des modes de jeu, des manières de jouer qu'on n'explore pas forcément en improvisation. Après, qu'on va ajouter à notre répertoire de modes de jeu d'improvisation. Mais voilà, ça nous fait sortir de nos habitudes. De nos habitudes individuelles de pratique. Ouais, non, c'est vraiment. Et du coup, moi, j'essaye de garder un travail en continu avec les compositeurs, c'est-à-dire de travailler, de pas changer tout le temps de compositeur tous les ans. Oui. Donc, on a travaillé avec, par le passé, avec Elsa Biston, Karl Negelen, Frédéric Patard. Et là, ils forment un collectif de compositeurs et ils vont nous écrire les prochaines pièces.
Ah oui.
À eux trois, en fait, en une espèce d'écriture à six mains, en se faisant passer les choses aussi. Le but, un petit peu, là, c'est que c'est pas un qui va écrire une partie, un autre partie, un autre une troisième partie, c'est qu'ils veulent vraiment que les choses circulent.
Ah, c'est bien.
Qu'il y ait une esquisse qui soit donnée par l'un d'entre eux, qui soit retravaillée par un autre, etc.
Ah bon, on en parlera avec Elsa Biston qu'on va recevoir bientôt, enfin en octobre. En octobre. Ouais. J'ai cru comprendre qu'il y avait des liens avec, ce qui est assez naturel d'ailleurs, avec la lutherie urbaine de Bagnolet.
Alors, lutherie urbaine, bon, je sais pas si je vais en parler des masses. Hein. Moi, j'ai été directeur artistique pendant 6 mois de lutherie urbaine et jusqu'à ce qu'elle ferme. Donc, voilà. Des liens, des liens, parce que facteur d'instruments. Après, je suis arrivé dans un endroit qui avait son passé. Moi, j'avais le mien. Ouais. Pas de passé commun. Très clairement. Et en plus, j'étais un peu. Je vais pas tellement aller sur ce terrain-là.
Bon, parlons d'autre chose. Alors, parlons des actions pédagogiques. J'ai vu que vous étiez intéressé par ces actions pédagogiques. Comment cela se traduit-il? Qu'est-ce qui se passe exactement? Que transmettez-vous et à qui?
Alors, les actions pédagogiques, donc, comme je te disais, pour moi, le SPAT est une super porte d'entrée vers les musiques expérimentales. On a des actions juste d'écoute. Mais après, on a travaillé aussi j'ai travaillé pendant un bon bout de temps sur une partition défilante, qui est un prompteur, une espèce de karaoké géant.
Oui, voilà.
Quelque chose qui défile et avec un certain nombre de voix. On est allé jusqu'à 50 voix différentes avec 50 parties pour des néophytes, donc des non-musiciens qui devaient taper ou jouer sur tel ou tel instrument de manière. Et qui étaient répartis dans l'espace autour des SPAT, donc qui formaient un second cercle d'espace sonore. Et du coup, la partition tenait compte du placement de chacun pour créer des mouvements de son dans l'espace. Voilà, ce projet va continuer. Et puis, par exemple, Elsa Biston a écrit une pièce pour ça il y a 2 ans. Roméo Montero aussi avait écrit une pièce. C'est un projet qui va continuer. En pédagogie, ou en tout cas en lien avec les publics non initiés, SPAT Sonore avait fait en 2005, donc autant dire que ça date, un parc d'attractions sonores.
Oui.
en Bretagne. C'était un prototype de parc d'attractions qui n'a pas eu de suite après. Et puis ça a été relancé, j'y repense, depuis quelques 2-3 ans. Et du coup, petit à petit, là, j'ai installé au parc de la Villette une tyrolienne sonore. Donc une tyrolienne qui vient taper un certain nombre de percussions, et l'idée c'est que ces jeux sonores, après il y a d'autres jeux qui vont voir le jour, c'est-à-dire un tourniquet sonore, un tourniquet boîte à musique, etc. Et l'idée c'est que les enfants, parce que c'est destiné aux enfants, jouent sur ces jeux et qu'en même temps des musiciens improvisent avec le son produit par les jeux.
C'est ce qui s'est passé le week-end dernier.
Voilà, c'est ce qui s'est passé le week-end dernier avec Denis Charol, Julien Hay et Jean-Brice Godet, et Jean-Jacques Birger aussi qui s'est joint à nous.
Mais alors c'est ce que tu appelles les boîtes à musique géantes.
Voilà, c'est ça.
D'accord, ouais.
Voilà, c'est des boîtes à musique géantes parce que c'est un principe de marteau qui viennent taper un certain nombre de percussions ou de percussions, ça pourrait être n'importe quoi, mais qui viennent mettre en jeu un certain nombre d'objets sonores de manière, une tyrolienne ça va être rectiligne dans un sens puis dans l'autre, et puis un tourniquet ça va être vraiment comme une boîte à musique, c'est-à-dire que ça va faire un tour, donc ça va être comme ça va être comme un sample, hein, donc les boîtes à musique géantes, c'est tout début du projet, mais on s'est bien amusé là avec les trois, les quatre le week-end dernier. Et puis ce week-end, on va rejouer ça là avec des membres du collectif MIR, c'est-à-dire Benjamin Sens, Karsten Rapfel et Antoine Viard. Du groupe Uns.
Oui.
Et du coup, ils vont venir et moi, je serai aussi là. À jouer, notamment aussi avec un vélo, une espèce de séquenceur analogique à base de deux vélos d'appartement. Donc, voilà, venez, c'est près de la Folie, c'est en partenariat avec la Folie Numérique, c'est derrière la Folie Numérique, c'est Allée du Cercle Sud. En gros, c'est quand on a la grande halle, on l'allonge à droite et on tombe dessus.
D'accord, et c'est samedi, dimanche ?
Samedi et dimanche après-midi.
Ah, c'est,
samedi, c'est de 16 à 19. Ah. Enfin, la tyrolienne sera ouverte avant, dès 15h, je pense, ouais. Et dimanche, plutôt de 14 à 17, un peu plus tôt.
T'as pas d'enregistrement de ça, vous avez...
Non, pas encore.
Je propose qu'on écoute Maelstrom, composé pour le Spat Sonore par Karl Naglen. Voilà, c'était le spat sonore, le morceau Maelstrom, la pièce, pardon, Maelstrom, un extrait de la pièce Maelstrom de Carl Negglen. L'émission va bientôt s'achever, Nicolas, on parle du spat sonore. Alors, vous avez entamé une collaboration avec la compagnie des musiques à Weir, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
C'est une rencontre avec Denis Charol. On va reprendre les tubes des musiques à Ouïr avec Spat. Bon, ça c'est l'idée de départ. Après, je pense qu'on va aller pas mal aussi vers de la performance dans l'espace. Ouais. J'aime beaucoup faire ça. Et Denis aussi. Voilà, donc on va faire une résidence à l'échangeur là dans 10 jours. On va avoir deux dates de concert, donc une première sortie de résidence avec le projet avec Gilles Poisat. Donc ça c'est le 18 septembre, là, vendredi prochain, je crois.
Ouais. Ouais.
Et la deuxième, donc avec les Musiques à Weir, le 25 septembre, les deux à l'échangeur. Si vous nous avez loupé là, vous pouvez aller entre Alençon et Le Mans le 17 octobre. Dans le cadre du festival Son des Cuivres. Je relis mes notes. Le Son des Cuivres, ouais, entre Alençon et Le Mans. Je me souviens plus du nom de la ville exactement, je dois avouer que.
Bon. Bref.
Et on a un Facebook qui est assez utilisé.
Et puis
ça s'appelle Spat Sonore.
Oui.
C'est pas la page Facebook, hein, c'est vraiment un profil Facebook. Voilà. Donc les gens veulent savoir un peu plus sur nous, c'est là-bas.
Il y a un site internet également.
Il y a un site internet, mais on s'en occupe pas des
masses. Peut-être pas à jour. Hein,
non.
Alors, il y a un autre projet, comme on dit, qui s'intitule Splendeur du Cavalier Seul. Est-ce que tu peux nous en parler également?
Dans les Splendeurs du Cavalier Seul, c'est un projet qui est une somme de tous les projets. Qui serait un projet composé donc par ces trois compositeurs que j'évoquais tout à l'heure, Elsa Biston, Carl Negglen, Frédéric Patard, autour de Don Quichotte. Autour de Don Quichotte, voilà, à partir, bon, on est dans une phase de création, d'écriture. Hein. On parle du Don Quichotte de Purcell, du Don Quichotte de Strauss. On parle de... Et puis aussi, l'idée, c'est qu'il y ait, que le public soit scindé en deux, qu'il y ait la moitié du public qui soit au centre de l'installation, du SPAT, et que la deuxième moitié du public fasse une espèce de visite guidée du théâtre et aussi de différentes actions en lien avec l'histoire, mais deviennent aussi acteurs pour la première partie du public qui écoute. La deuxième partie du public deviendrait acteur grâce à ces trucs de partition défilante, de karaoké géant, de jeux tyroliennes sonores, enfin voilà, toutes mes conneries que j'invente qui seraient mises dans le film. voilà, c'est pas encore. On cherche s'il y a des coproducteurs qui sont à l'écoute. On cherche des coproducteurs pour ce projet. Ce sera un super projet.
Bon, bah oui, on n'en doute pas. Oui. Don Quichotte, c'est pas mal. Comme, ça se prête bien, j'ai l'impression. Alors, peut-être une explication sur tout ce qu'on a écouté durant l'émission. Tu m'as parlé par Internet, tu m'as bien précisé que nous allions diffuser des archives sonores. Nous n'avons pas diffusé de disques, parce qu'il n'y a pas de disques.
Non, il n'y a pas de disques.
Bah oui, est-ce que ça aurait un sens de faire un disque?
Ça pourrait avoir un sens. Ça aurait un sens pour les ingénieurs du son. Il y en a plein que ça éclaterait et ouais. qui l'ont exprimé à de nombreuses reprises. Donc ça aurait un sens pour ça. Seule chose, c'est que je mets un point d'honneur à payer tous les spatistes pour chaque jour travaillé. Ouais. Mis à part pour les installations en fait chaque jour de répétition on se paye. Du coup chaque jour pour un enregistrement je pense qu'il faudrait on avait voulu le faire hein, avec pour les pièces de Karl et de Fred Patard. Bon il faudrait au moins 10 jours de travail. On n'a pas eu des sous en fait, on avait demandé comment oh, je me souviens plus des... Enfin voilà, on n'a pas eu des sous pour le faire. Donc, mais c'est vrai que c'est aussi tellement quelque chose à vivre en vrai.
Oui, c'est ça. C'est voilà. Pour ça que je parlais de voilà. Est-ce que ça a un sens, parce que c'est quand même.
Voilà, ça a un sens, mais vaut mieux venir le voir en vrai, c'est sûr.
Ouais. Ouais.
C'est plutôt un truc post-effondrement quand il n'y aura plus de disques.
D'accord. Bah, très bien.
Et plus d'électricité.
Bah, c'est super. Mais oui, par contre, il y a pas mal de vues. Enfin, pas mal. Il y a quelques vidéos, donc, dont une vidéo à 360 degrés.
Oui, on avait fait cette expérience-là. C'était assez rigolo. Ça, c'est pareil. J'aimerais bien quand même le faire un peu plus sérieusement. Une vidéo immersive à 360 degrés. Là, on l'avait fait avec du matériel qui n'était pas ultra professionnel, ah oui. Qui donne une petite idée. J'aimerais bien refaire la chose avec du bon matos, un de ces quatre.
Parce que pour le coup, ça a un sens de l'aspect visuel. Est-ce que c'est important ça pour toi, l'aspect visuel, tous ces tuyaux, tous ces machins?
Bah, on est pas mal statique derrière nos bignoux quand même.
Ouais.
On essaye quelquefois, et j'aimerais bien notamment développer ça avec Charol et Musica Weir, de sortir de l'installation, de sortir de nos instruments et d'aller jouer au dehors, de faire. Voilà, de donner ses respirations. En improvisation, on le fait quand même assez souvent, de quitter nos instruments, de tourner autour de l'installation avec des instruments portables, etc., pour faire vivre l'espace sonore d'une manière différente. On le voit un petit peu dans cette vidéo à 360
ouais.
degrés.
Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que tu nous as donné toutes les dates de concert du Spat Sonore?
Bah, écoute, je crois, oui.
Ouais.
Bah non, après, il y en a d'autres, mais en principe, on va en Estonie en novembre, mais bon. Là, on risque d'être bloqué 15 jours en quatorzaine dans un hôtel pour AV de l'aéroport de Tallinn, donc on sait pas encore si on va le faire, ça.
Ah, oui, d'accord. Ouais. Et alors, et toi, en tant qu'instrumentiste, est-ce que tu as des dates de concert à nous dire?
Bah, je joue les prochaines. Je joue avec les Arts Florissants là en octobre. Ça a l'air d'être. Bon, enfin, on devait aller en principe à New York. C'est un peu l'ancien monde qui se termine. On devait aller à New York, à Dublin, ouais. Tout ça a été annulé. Du coup, on va à Perpignan.
Ah bah voilà, c'est bien.
Mais c'est bien. Voilà, enfin, je suis jamais allé à Perpignan.
Enfin, c'était bien. Maintenant, c'est peut-être un peu moins bien maintenant avec la nouvelle municipalité.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai.
Ouais, bah, oui. Quand même.
Ouais. Bon, bah écoute, je sais pas. Enfin voilà, non, il n'y a pas beaucoup de trucs.
Et oui. Alors, est-ce que vous avez été affecté par ce confinement? Est-ce que ça t'a. C'est la question que je pose maintenant toutes les semaines aux invités. Est-ce que ça t'a motivé? Est-ce que ça a été une période de travail ou une période d'abattement, de déprime?
Écoute, ça a été surtout une période familiale parce que j'étais avec les gamins.
Ah bah voilà.
Voilà. Et je me suis. pas mal occupé de mes gars. Et je me suis beaucoup occupé de Spat, mais juste pour reporter les périodes de résidence et de concert qui avaient été annulées, pour réfléchir aux histoires de chômage partiel. Ça a été beaucoup sur tout ça, donc pas très très... Mais après, j'ai aussi, je pense que ces histoires de tyroliennes sonores et tout ça, ça serait pas allé aussi vite s'il n'y avait pas eu le confinement.
Ah bah tu vois. Ouais.
Ça m'a motivé pour commencer à travailler dessus. Voilà, puis pour m'installer petit à petit en Bretagne, parce que je crois que je vais quitter Paris. Enfin, je crois pas, je vais quitter Paris.
D'accord, tu vas aller où en Bretagne ?
Je vais aller me rapprocher de ma ville où j'ai grandi, à Nantes.
Ah, très bien.
Voilà.
On terminera l'émission par Dort de Joris Ruhl. Peut-être un petit mot là-dessus ?
C'est une partition défilante, Dort, justement, qu'on avait fait avec des élèves de cuivre du conservatoire d'Annecy. Voilà.
D'accord. Bon, moi j'ai deux annonces à faire. J'annonce que ce soir à 19h19, autour du lac des Minimes, donc dans le bois de Vincennes, station RER Fontenay-sous-Bois, c'est très à 100 mètres de la station RER Fontenay-sous-Bois, il y a Sonic Protest qui propose un peu ce qu'on fait Coax la semaine dernière, des concerts un petit peu autour du lac, un peu dans les bois, un peu dissimulé. Et je précise qu'il y aura notre ami Laurent Pascal qui anime de temps en temps maintenant l'émission, qui fut une figure de notre émission et qu'on voit moins ces temps-ci. Si on peut le voir en concert, c'est aussi bien. C'est ce soir, 19h19 à minuit. Ce soir également à la librairie Publico, à 19h30, là c'est plus clair, c'est plus net, rencontre et débat avec Jean-François Duperron pour son livre À l'école de la Commune de Paris, édition Raison et Passion. La Commune de Paris fête son 150e anniversaire en 2021. Ah oui, et nous on prépare une émission là-dessus, un appel à contribution. Bien sûr qu'on évoquera la Commune de Paris dans quelques mois dans notre émission. Sa pensée éducative à la Commune et son action effective en matière scolaire sont encore très peu connues, car le modèle dominant de l'histoire scolaire française les oublie systématiquement. Il faut dire que la Commune est oubliée systématiquement, même dans l'histoire de France. Donc allez ce soir à 19h30 à la librairie Publico. Voilà, on se quitte avec Dort, composé par Joris Ruhl pour le Spat sonore. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci, Christophe.
Et puis à bientôt, alors.
À bientôt.
Allez, salut, à la semaine prochaine. Salut. Thank you.